Le masque sans la plume.
Cette semaine, je suis allé voir au cinéma Dolly de Monsieur Loiseau alias Quentin Dupieux, son 14e film en 3 ans. Je dis un chiffre au hasard, mais je pense qu'il n'est pas si loin de la vérité. Bah, comme son nom l'indique, ça parle de... Comme son nom l'indique, ce film parle du gigantesque, génialissime, fantasque peintre et maître du surréalisme Salvador Dali, complètement submergé par son égocentrisme. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, en fait, il parle comme ça. Il parle comme ça d'ailleurs dans la vraie vie. Et en fait, ce film parle de Salvador Dali, mais à travers l'histoire d'une journaliste jouée par Anaïs de Moustier. Je ne me rappelle plus du nom de la journaliste, malheureusement, mais ça tombe bien, Salvador non plus. Qui tente d'obtenir, de l'interviewer d'abord, puis ensuite d'en faire un portrait filmé, enfin une espèce de documentaire, mais qui va échouer à peu près à chaque fois parce que Dali est complètement fou, parce qu'il a un énorme... qu'il a un énorme melon. Alors, c'est un film de Quentin Dupieux, donc ce n'est jamais très simple à suivre ni à comprendre. En fait, c'est plein de mises en abîme. Dali est joué par plusieurs acteurs. D'ailleurs, j'en profite pour parler du coup de ce casting de haut vol, avec donc, dans le rôle de Dali, Pio Marmaille, Jonathan Cohen alias Joko, Édouard Baer et Gilles Lelouch. Et donc, en fait, le film va switcher parfois entre les acteurs, ce qui n'aide pas vraiment à la compréhension. Il y a aussi tout un sketch avec un prêtre qui raconte un rêve. À chaque fois, on sort du rêve, il raconte le rêve, on ressort à nouveau du rêve. Il y a un autre Dali. Enfin voilà, ça mélange vraiment complètement la timeline. C'est assez difficile de s'y retrouver, c'est vrai. Il y a plein de moments surréalistes, justement, où des gens se font tirer dessus sans aucune raison dans un contexte qui ne s'y prête pas. Par exemple, une vente aux enchères. À un moment, il pleut des chiens. Mais bon, ça ressemble beaucoup à du Dali, en l'occurrence. Pour ce qui est de jouer Dali dans l'ordre... Joko s'en sort le mieux. Ensuite, Édouard Baer, évidemment. C'était un rôle un peu taillé pour lui aussi, d'ailleurs. Pio Marmaille, allez. Puis Gilles Lelouch en dernier. Parce que vraiment, j'ai même pas reconnu sa voix. Moi, j'ai l'habitude de l'entendre, de parler fort. Et vas-y, que je suis pas content, je suis le Gilles Lelouch, je fronce les sourcils. Et ben là, il fait pas du tout ça. Et du coup, c'est assez perturbant, finalement. Ah, mais j'ai oublié quand même un acteur important, Romain Duris, qui a un rôle important. En gros, le rôle du producteur qui finance le documentaire. Et qui est au choix un mec très sympa ou un énorme enculé. Bon, voilà, c'est en fonction du film. Ce qui résume assez bien finalement le monde de la production audiovisuelle, mais ça, c'est un autre débat. Bah, l'image que ça donne de Dali, c'est à peu près comme celle de la plupart des génies, on va dire, de tel ou tel art. Un génie, mais aussi un gros con, très imbu de sa personne, de son art. Il parle de lui à la troisième personne, comme notre cher Alain Delon. En fait, quand on voit les archives, limite l'interprétation des acteurs. Et même pas particulièrement caricatural, quoi. Il est globalement comme ça. J'ai vu qu'apparemment, il a fini un peu nasillon sur les bords. Donc, il s'ajoute à la longue liste, comme je dis, de génies qui sont en fait des gros enculés. En ce qui concerne est-ce que j'ai aimé le film ou pas, et bah, comme d'habitude, avec Dupieux, je ne sais pas trop. Je pense quand même que j'ai plutôt aimé. Je vais te dire un peu un hot take. Je pense que j'ai préféré à Yannick. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 la cancel culture pour moi. Du coup, je pense que je lui donnerai, allez, 3 étoiles et demie.
Je suis allé voir Pauvre créature de Yorgos Lanthimos. J'ai vécu en Grèce, donc je sais dire son nom. Mais ça se trouve, je dis ça et j'ai hyper mal prononcé. Juste beaucoup d'assurance. Donc, je suis allé voir Pauvre créature de Yorgos Lanthimos, qui est en gros l'histoire de Bella Baxter, qui est une jeune fille qui a essayé de se suicider, jusque-là, c'est très peu joyeux, un savant un peu fou. A repêché son corps, il a ouvert son ventre, récupéré le bébé, récupéré le cerveau du bébé, et il a échangé le cerveau de la dame avec le cerveau du bébé. Donc Bella Baxter est une adulte de corps, mais une nourrissonne d'esprit, et on suit un peu dans le film comment est-ce qu'elle l'apprend, appréhende, découvre la vie. Donc c'est assez marrant parce que il y a un décalage comique, on peut le dire, entre le corps de Bella Baxter, qui est joué par Emma Stone, qui est formidable d'ailleurs, et toutes ses actions, tout ce qu'elle fait, ses capacités de réflexion, enfin, elle réfléchit vraiment comme un jeune enfant. Au début, donc, elle est avec son père adoptif, qu'elle appelle Dieu, enfin God, ce qui est très troublant par ailleurs, mais pourquoi pas. dans une maison et il la tient un peu enfermée parce qu'il a peur qu'il lui arrive des choses. Mais au bout d'un moment, bah, elle grandit, elle commence à s'émanciper et elle a envie de découvrir le monde. Donc elle fait un peu le forcing pour découvrir le monde. Quand je dis découvrir le monde, c'est avant tout baiser, visiblement, puisque c'est ce qu'elle passe une grande partie du film à faire. Donc à un moment, elle décide de quitter la maison pour faire un petit tour d'Europe, on peut dire ça. Elle fait un interrail avant l'heure et sans train pour un peu découvrir la vie d'adulte, quoi. Tout au long du film, il y a une galerie de personnages, on peut le dire. Donc déjà, il y a le père, enfin, je sais même pas si on peut parler de père, enfin, le savant bizarre qui est à l'origine de Bella, qu'on appelle Ragod, qui est joué par Willem Dafoe, qui est défiguré. C'est Franck Ribéry, mais avec 40 ans de plus. Bah, il est très protecteur envers elle, t'as envie de dire qu'il est gentil, mais le mec est complètement fou. Il passe son temps à disséquer des cadavres, c'est-à-dire que c'est une passion, et il se dit d'ailleurs que c'est une super activité père-fils, je sais pas si vous faisiez ça, mais moi pas du tout. Donc, ce mec est complètement bizarre, on apprend un peu dans le film qu'il a été maltraité par son père, super, mais ça n'excuse pas tout. Et après, il y a surtout un avocat dont j'ai mangé le nom, qui est joué par Mark Ruffalo, qui embarque Bella dans son voyage à travers l'Europe, puis un mec un peu véreux, qui aime beaucoup baiser également, c'est un thème central du film, et globalement dépenser de l'argent. Il a visiblement du mal à comprendre que Bella puisse être aussi simple d'esprit, et du coup il s'énerve contre elle absolument tout le temps, ce qui donne des scènes hilarantes où il se tape par exemple la tête sur un bar. Bah, s'il y avait des glaçons, ça pourrait être une scène de troisième mi-temps commune, mais c'est sans glaçons quoi. Yorgos Lanthimos, il s'est clairement un peu fait plaisir sur la réal. Un coup c'est en noir et blanc, un coup il y a du fisheye, tu sais pas pourquoi, un coup l'image elle est déformée, les couleurs sont hyper saturées. Il y a plein d'idées visuelles dans le film. Tout n'est pas toujours réussi, mais globalement la majorité oui, et t'es dans le truc. Il y a deux détails qui retiennent mon attention. Le premier, c'est Willem Dafoe fait des bulles avec ses sucs gastriques, et ça doit être quelques secondes plus tard, tu croises tous les animaux qu'il y a chez lui. Et c'est que des animaux mi-chien, mi-poule, mi-éléphant, mi-tortue. Je l'ai inventé celui-là, parce que je me rappelle plus ce qu'il y a. Enfin, ils sont tous très bizarres, et globalement pas très beaux. Parce que le principe du film, c'est qu'on comprend que visiblement c'est Willem Dafoe. Il fait joujou avec les créatures pour créer des bêtes bizarres. Mais dans ce cas-là, fais des trucs stylés, fais des trucs jolis, tu vois. Le mi-chien, mi-canard, il te sert à rien. Je trouve que la plus grande force du film, c'est quand même Emma Stone, qui est formidable tout le long. Moi, j'en fais ma favorite personnelle pour l'Oscar. Je pense que ça va être très très chaud. Mais je serais ravi pour elle. Je pense qu'elle le mérite amplement. Et globalement, j'ai trouvé que le film était une franche réussite. Donc je lui mettrais un petit 4 étoiles sur 5, je pense.
Début février, je suis allé voir le film Argyle. C'est le petit dernier du studio Marvel et de Matthew Vaughn, le réalisateur des Kingsmen. Et voilà, donc c'est son dernier film avec toute une pléthore de stars. On a droit à Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, qui pour moi est meilleur dans son rôle de réalisatrice que d'actrice, hein, on va pas se mentir. Il y a John Cena, il y a Dua Lipa, bon bref, il y a tout un tas de stars. C'est plutôt sympathique, mais bon, je préfère prévenir que je suis quand même très bon public. Donc, à mon avis, est à prendre quand même avec des pincettes. Je suis capable de voir tout et n'importe quoi. Comme Kingsman, c'est une affaire d'espionnage. Dans un premier temps, nous avons l'histoire d'Argyle, qui est un agent secret bodybuildé, qui est joué par Henry Cavill, qui est accompagné de son fidèle acolyte, John Cena. Et en fait, c'est une histoire créée par une autrice, qui est jouée par Bryce Dallas Howard, qui en fait écrit l'histoire d'Argyle. Et nous nous retrouvons en fait dans une histoire d'agent secret, mais au niveau de l'autrice, parce qu'apparemment elle prédit l'avenir, et tout ce qu'elle écrit dans son livre se passe réellement dans la vraie vie. La protagoniste est tout le temps accompagnée de son chat, qui est dénommé Alfie, pour les intimes. Mais le chat, pour être honnête, il n'a pas grand intérêt en fait. C'est un peu du fanservice quoi, on met un petit chat pour faire tout mignon. Il est en plus très mal fait, il est beaucoup fait en images de synthèse, et ça se voit, et c'est un peu grossier quand même. Au niveau des images, il faut vraiment distinguer la partie où c'est Argyle, le héros de la bande dessinée, où là, vraiment, les images, elles sont cheap. Bon, je pense qu'on essaie de se mettre à la place du lecteur qui lit le livre et qui visualise les personnages qui font leur scène d'action. Après, tout ce qui est tourné dans la vraie vie, donc dans la vie de l'autrice du livre, là, c'est un peu mieux fait. Par contre, là, c'est un peu fouillis, c'est que les scènes de combat, elles sont, c'est horrible à regarder. Ça bouge beaucoup trop, c'est beaucoup trop rapide. Alors là, des fois, ça fait plus un mal de tête qu'autre chose. Par contre, et l'intrigue est top. Je suis allé voir le film en ayant lu les notes. Je suis arrivé, je me suis dit, je vais voir une bouse, mais bon, c'est pas grave, on y va. Et bien en fait, lisez bien les notes avant, parce que vous serez vraiment agréablement surpris. J'ai mal à être objectif sur Dua Lipa, mais non, elle est... Vous avez déjà vu quelqu'un faire de la moto en talon aiguille et en robe? Donc, c'est un peu la caricature des agents russes dans 007, quoi, mais je trouve qu'elle se prête bien au jeu, quoi. Sur 5 étoiles, je mettrais 3,5. Non, on va être 3. On va être 3 étoiles pour ce film. C'est un très bon divertissement, par contre. Très, très agréablement surpris et pour une fois, avec un scénario un peu travaillé.
Merde, j'avais un sketch. Fais chier.